savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
On connaissait Starsky et Hutch, Desperate Housewives ou House of Cards. Ces séries américaines ont conquis le monde entier. Pourra-t-on compter sur le continent africain et dans le reste du monde avec Sako et Mangane, Maîtresse d'un homme marié ou Ouara ? Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
On pourrait également citer Chéri Coco, C'est la vie ou Sœurs ennemies. Depuis quelques années et l'arrivée de nouvelles chaînes de télévision en Afrique francophone, les séries africaines se sont multipliées et particulièrement les séries sénégalaises, profitant d'un écosystème favorable avec la chaîne Leader, Téléfutur Média et des débouchés aussi offerts par TV5 Monde ou Canal Plus Afrique. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en ligne avec trois artisans de cet essor des séries africaines. Jean-Luc Herbulot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un réalisateur, scénariste franco-congolais et vous avez créé la série policière Sako et Mangane, diffusée sur Canal Plus Afrique. Charlie Belletto, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien l'audiovisuel africain pour avoir œuvré notamment sur la série C'est la vie et l'on vous retrouve aux manettes de la toute nouvelle série originale de TV5 Monde, Ouara. Et Oumar Diack, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de cette série, Ouara, donc, une série sénégalaise. Le Sénégal à l'honneur de cette émission, tant le pays semble en pointe dans la production audiovisuelle en Afrique francophone et s'impose aussi sur la carte des lieux de tournage. L'envoyé spécial permanent de RFI au Sénégal, Charlotte Hydrac, s'est justement rendue sur le tournage du nouveau long-métrage de Robert Guédiguian. Pour son 22e film à venir, le plus marseillais des cinéastes français explore la période d'indépendance du Mali dans les années 60. Pour des raisons de sécurité, le tournage ne pouvait pas avoir lieu à Bamako et donc Robert Guédiguian a choisi de tourner au Sénégal. Reportage à Thiès, à 70 km à l'ouest de Dakar.
Tout le monde en place,
moteur,
action !
Samba, jeune militant socialiste, rencontre Lara qui fuit son village et un mariage forcé. Il l'emmène dans sa famille.
Je vous présente Lara, elle est venue chercher du travail pour aider sa famille. Je me suis dit qu'en attendant, elle pourrait dormir dans la chambre de Bintou.
Sûrement pas. On est assez nombreux comme ça. Et comme ta maman, elle s'occupe de l'avenir du Mali, c'est moi qui fais tout.
Bon, nous sommes en 1960. Le Mali accède à l'indépendance. C'est la première fois que Robert Guédiguian tourne un film sur le continent africain. Tout est parti de l'exposition dédiée au photographe malien Malik Sidi Bé, organisée à Paris fin 2017.
Et donc, en tirant ce fil-là à partir de quelques photos magnifiques, je me suis dit que c'est quand même bon, intéressant, passionnant, historiquement... Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Mali avec les mouvements djihadistes, bon, les rivalités entre les Peuls, les Dogons, etc., on est obligé de s'interroger sur la période de Modibo Keïta.
Modibo Keïta, considéré comme le père de l'indépendance du Mali, une période révolutionnaire mais aussi festive, les jeunes se retrouvent le soir pour danser dans les clubs de Bamako.
Donc il y avait révolution d'un côté, fête révolutionnaire de l'autre, twist, danse, jeunesse, histoire d'amour. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de choses pour se dire qu'on a envie de faire un film.
Impossible de tourner au Mali pour des raisons de sécurité. C'est donc au Sénégal que le cinéaste a posé sa caméra, 9 semaines entre Pau d'Or, Saint-Louis et Thiès.
C'est un pays très très proche du Mali. Dans l'architecture coloniale par exemple, dans les vieux bâtiments administratifs, les mairies, on reconstitue absolument tout. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait, je crois, 1000 costumes, des véhicules d'époque, enfin, bon, c'était des chantiers un peu dingues. Hein.
Alice Dalus Gomez, qui joue le rôle principal de Lara, vient justement de changer de costume. Étudiante en droit de 19 ans, française d'origine capverdienne, elle se sent concernée par cette histoire.
Ça me pousse à connaître davantage l'histoire de mon pays, le Cap-Vert. Ça me paraît lointain, mais pas si lointain que ça en vrai, puisque de nos jours, cette empreinte coloniale reste quand même assez visible, mais c'est quelque chose qu'on n'instruit pas assez, je pense.
Et c'est précisément l'un des objectifs du réalisateur, faire écho au présent.
C'est vrai que l'une des problématiques en France aujourd'hui, c'est effectivement le rapport que nous avons à l'immigration, à notre passé colonial, au néocolonialisme, etc., etc. Forcément, le film sera une participation à ce débat-là.
Le tournage de Mali Twist, interrompu en février dernier à cause de la pandémie de coronavirus, se poursuit jusqu'à fin novembre. Crise sanitaire oblige, difficile pour l'heure de prévoir une date de sortie. Charlotte Hydrac, de retour de Thiès, RFI.
Voilà, Robert Guédiguian qui tourne un film au Sénégal, Charlie Belletto ou Mardiac, Jean-Luc Herbulot. Est-ce que c'est vraiment le signe qu'il y a un écosystème audiovisuel au Sénégal très favorable? Je sais pas, on peut peut-être commencer avec vous, Jean-Luc Herbulot.
Bah écoutez, je pense que c'est oui, au Sénégal, il y a clairement quelque chose qui se passe depuis maintenant 4-5 ans. Charlie était avant moi, hein, donc il vous répondra encore plus précisément là-dessus. Après, j'ai l'impression que c'est aussi toute l'Afrique francophone qui bouge de toute façon, parce que là, on parle du Sénégal, mais il y a aussi la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que le prochain pôle, c'est aussi l'Afrique centrale, parce que personne ne voit le truc arriver, mais nous, en production et dans les projets qu'on reçoit, parce que j'ai aussi une production que j'ai montée au Sénégal, on reçoit pas mal de projets d'Afrique centrale, et je peux vous dire qu'effectivement, le niveau grimpe tous les ans. Donc on voit le truc arriver, et effectivement, au Sénégal, pour l'instant, c'est un peu l'épicentre de cette effervescence, j'ai l'impression.
Alors Charlie Belletto, comme Jean-Luc vous citait, et vous qui avez, je ne sais pas si on peut parler d'antériorité, mais enfin en tout cas qui connaissez bien le système, vous avez travaillé, je le disais, je le rappelais, sur la série aussi C'est la vie, avant d'être le showrunner de Ouara. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette effervescence au Sénégal? Par une volonté politique plus affirmée, ou je sais pas, par un dynamisme des acteurs économiques locaux?
Oui, moi je pense que c'est lié au dynamisme local en premier. Ensuite, il y a des énergies nouvelles qui se sont agrégées à cette énergie locale. Et du coup, une série comme C'est la vie est née. J'en suis le showrunner, le co-créateur avec Marguerite Aboué. Mais derrière, il y a un producteur, Alexandre Rideau, qui a envie de passer à la production. C'est quelqu'un qui vient des ONG. Et il a pas mal de sujets en magasin, il connaît bien le territoire, et donc avec lui, on se met à écrire des histoires qui touchent les gens dans les grandes villes, mais aussi dans toute l'Afrique francophone.
Et est-ce qu'on peut parler de facilité de tournage dans les rues de Dakar ou de Saint-Louis? Alors, je ne sais pas, Oumar Diack, je sais que vous avez tourné Ouara. On y viendra, ça se passe dans une ville imaginaire, mais je crois savoir que vous avez tourné à Saint-Louis. C'est plus aussi facile de tourner au Sénégal?
Moi, pour le coup, c'est la première fois que je tourne au Sénégal, contrairement à Jean-Luc et Charlie, qui y ont des habitudes. Et je vais vous dire que j'ai été agréablement surpris. On a eu la chance aussi d'avoir une équipe assez efficace en termes d'anticipation, en termes de blocage de rue. C'est des conditions qui peuvent ne pas être évidentes parce que c'est des rues assez peuplées. Mais moi, en tout cas, en tant que réalisateur, j'ai ressenti aucun souci au niveau des blocages, au niveau du tournage en extérieur, que ce soit à Saint-Louis ou à Dakar, plus particulièrement à Saint-Louis. C'était des conditions de travail super, super intéressantes, super facilitantes. Donc, une très, très bonne expérience à ce niveau-là.
Alors restez à l'écoute, Charlie Belletto, Oumar Diack et Jean-Luc Herbulot. On parle de vos séries Ouara et Sako et Mangane dans une poignée de minutes après cette nouveauté musicale. Les jeunes chanteuses béninoises de Star Feminine Band avec Femmes Africaines.
Bye.
êtes bien sûr RFI, à l'écoute de tous les cinémas du monde. Une émission consacrée à l'essor des séries africaines et particulièrement sénégalaises. Ouara est la toute dernière en date, diffusée sur TV5 Monde et disponible sur la plateforme tv5mondeplus.com. Ouara, c'est le nom du héros, Moutari Ouara, de retour d'exil, un charismatique professeur de droit à l'université de Tanasanga, qui va être amené à s'engager en politique. On parle corruption, conflit de génération, émancipation de la femme et soutien aux populations précaires.
On est dans notre droit. On a un bail. On n'en a rien à faire de le centre artisanal. Cher Cissé ne nous entend pas. La mairie ne pourra rien contre nous.
Oui. Juridiquement, les choses sont très compromises. Tous vos recours ont été épuisés et le marché-gare a été attribué au promoteur Bolingo.
Recours signifie quoi? Aïcha, explique-nous.
Vous voyez, professeur Moutari, elles ne comprennent pas votre jargon technique là. Concrètement, c'est quoi la solution?
Faites une contre-expertise du document pour trouver un quelconque vice de forme du dossier.
On a à peine de quoi vivre. Alors là, trouver de quoi payer un expert.
Peut-être qu'il y a une lueur d'espoir dans le recasement promis par Cissé.
Mais de quel espoir vous nous parlez?
Faites qu'il ne change pas d'avis, qu'il vous recase. Faites parler de vous.
Le projet d'achat de terrain en périphérie pour installer nos étals n'est qu'une chimère pour nous endormir. Monsieur Ouara, à qui voulez-vous que les commerçants vendent leurs produits dans ce coin pourri? Comment pouvez-vous nous proposer ça comme recours?
Non, mais vos recours, tous vos recours ont été épuisés, Aïcha. Je suis venu vous voir, écoute-moi. Madame Salimata, la promesse du maire est la seule issue que je vois. Je suis désolé. Je vous souhaite bonne chance pour la suite.
Voici l'exposition du premier épisode de la série Ouara. Charlie Belletto, vous en êtes le showrunner. Ouara, donc, c'est le nom du héros. Il ne s'engage pas trop, en tout cas, dans ce premier épisode. Il est même traité de lâche par sa meilleure étudiante, Aïcha. Alors, vous avez choisi, c'est vous qui avez choisi ce nom de Ouara, qui est un nom, je crois, en soi, très programmatique.
En fait, au départ, cette série, elle n'avait pas de titre et l'atelier d'écriture que j'animais, on a cherché comme ça des titres et le Ouara nous a plu tout de suite parce que c'était le cri des fauves, c'était le cri d'une jeunesse qui veut participer au débat. Au débat social et qui est en train d'évoluer et de prendre la parole. Donc, du coup, Ouara se définissait bien dans ce contexte.
Alors, Oumar Diack, vous êtes le réalisateur de la série. C'est une série réaliste, même si elle se situe dans un futur proche. On est en 2024, donc il n'y a pas de référence à des personnalités actuelles. Et une ville imaginaire, Tanasanga. Les Sénégalais reconnaîtront la ville de Saint-Louis. C'est ça? Vous n'avez pas... Parce que là, comment construire une ville imaginaire?
Alors, comment construire une ville imaginaire? Effectivement, c'est pas évident, mais dans l'idée, c'était intéressant pour nous que en ayant une ville imaginaire et un futur assez proche, on puisse être quand même assez identifiable. Parce que les thématiques visées, en fait, concernent tous les citoyens africains, j'ai envie de dire, et un futur aussi proche pour que la réalité que nous décrivons ne paraisse pas inatteignable, en fait. Donc, la construction de cette ville, on s'est beaucoup appuyé sur le décor naturel de Saint-Louis, en vérité, en essayant d'éviter tout ce qui est extrêmement identifiable, comme le pont de Saint-Louis ou d'autres éléments de l'architecture qui nous planteraient directement dans ce décor-là, même si, comme vous l'avez précisé, les Sénégalais reconnaîtront bien la ville de Saint-Louis. Mais pour nous, le défi, il était plus au niveau de la thématique abordée, de faire en sorte que les citoyens s'en sentent proches, en étant quand même dans une fiction et dans quelque chose dont le storytelling prend le pas sur le côté éducatif, le côté... Pour moi, c'était très important en tant que réalisateur, on en a pas mal parlé avec Charlie, qu'on n'ait pas une image de quelque chose qui est en train d'apprendre de façon frontale à des citoyens, voilà, dans votre quotidien, comment il faudrait se comporter. On donne des pistes au cœur d'une histoire fictionnée, d'où l'importance de dissimuler un maximum Saint-Louis et de placer tout ça dans un futur hypothétique et proche.
Charlie Belteau, on l'a entendu hein, tout à l'heure dans l'extrait, les personnages parlent français, ce qui est peut-être un peu surprenant, mais effectivement, dans la mesure où c'est une série qui a une ambition panafricaine, ça paraît absolument logique. Comment vous avez écrit, vous êtes parti de quoi pour l'écriture d'une série qui serait à la fois avec des problématiques, on aura l'occasion d'en reparler, hein, qui sont très ancrées au Sénégal, hein, par exemple la guerre, Sophie le disait, hein, des jeunes contre les vieux, mais qui en même temps aspire à englober beaucoup de problématiques du continent, et pas seulement du Sénégal.
Oui, oui, tout à fait. Ça fait beaucoup de questions.
Pardon, pour
parler de la langue, il y a une volonté panafricaine avec les producteurs de créer cette série. Mais il y a une ambition internationale. Donc, pour faire communiquer des gens qui vivent dans différents pays, même d'Afrique francophone, ils n'ont pas les mêmes habitudes, ni forcément les mêmes langues locales. Et du coup, le français est un peu le passeport.
La lingua franca,
donc,
oui.
Donc, c'est un peu sur ce... Voilà, c'est un peu avec cette idée-là qu'on a commencé à écrire tous ensemble. Et l'idée, après, c'est de raconter une histoire qui, à la fois, touche le continent, mais aussi qui touche autant le monde entier. Quand vous regardez les mouvements de jeunesse aujourd'hui, ils sont dans le monde entier, ils sont pas seulement en Afrique. Et donc, du coup, ça relie vraiment l'ambition du projet de parler à tout le monde, quoi.
Mais moi, par exemple, une chose m'a un peu surprise dans la série, qui est extraordinaire par ailleurs, mais c'est que la religion ait un rôle si secondaire, alors qu'on sait très bien que dans l'Afrique d'aujourd'hui, hein, on parle du Sénégal, mais peut-être aussi du Mali et du Cameroun, elle a une importance cruciale et même dramatique sur les populations.
Non, mais vous avez tout à fait raison, et je suis heureux que vous posiez la question. En fait, au départ, et aussi pourquoi nous sommes à Saint-Louis, c'est qu'au départ, cette histoire, elle est née au Niger avec un jeune étudiant de Zinder, qui est Magaji Soufoussani, qui m'a contacté parce qu'il savait que je réalisais beaucoup de séries en France pour les jeunes. Je réalisais aussi au Maroc. Et il avait très envie de me rencontrer pour me parler d'une histoire qu'il avait dans une ville, dans sa ville, pendant des élections municipales, l'investissement, la parole des jeunes au sein de cette campagne électorale. Et donc, le projet, il est parti de là. Donc, on s'est retrouvés, après maintes péripéties, évidemment, c'est pas facile de monter une série et de la produire en Afrique. Économiquement, c'est difficile de réunir des fonds. Nous avons réussi à l'installer au Sénégal, parce que je travaillais avec Alexandre Rideau sur C'est la vie. Donc l'idée, c'était de trouver, en fait, on voulait créer une ville imaginaire parce qu'on voulait que le sujet touche toute la région du Sahel. Et donc on a décidé d'inventer une ville qui avait un fleuve et un grand campus universitaire. Et donc Saint-Louis répondait vraiment à cette base d'écriture avec laquelle on a pu inventer pas mal d'histoires avec les scénaristes, puisqu'on a écrit sur place. Avant le tournage, on était déjà installé dans le campus et dans la ville pour écrire.
On reviendra sur les thématiques hein, de Ouara ultérieurement. Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect panafricain, effectivement, induit, Elisabeth le disait, par l'emploi du français. Et d'ailleurs, c'est un Burkinabé, un acteur burkinabé qui interprète Ouara, c'est Issaka Sawadogo, que vous connaissez bien, Jean-Luc Herbulot, puisqu'il joue aussi dans Sako et Mangane.
Exactement.
Lui, c'est le commissaire Sako, un vieux loup solitaire qui fait équipe avec un inspecteur un peu tout fou, un jeune chien fou, hein, Basile Mangane, le tout sur fond de mystique africaine. On écoute un extrait.
5 millions, hein ? T'es fou, toi ? La dette que j'avais vis-à-vis de toi, je te l'ai payée depuis longtemps, maintenant t'abuses pas avec moi, mec.
Hé, vas-y, 5 millions. 5 millions pour toi, sérieux.
Morgan, tu fais chier, mec. Tu viens, tu fous le bordel chez moi. Je peux rien pour toi, je t'ai payé. C'est bon.
Dis-moi, Lema.
Oh, mais quoi, Dis-moi, Lema. Écoute, je t'aime bien, mon frère. Mais des mecs comme toi, je préfère pas en affaire, c'est simple. Je te connais. Je te connais, Mangan.
Fais ton crevard comme ça.
Eh, c'est toi le crevard, vas-y, casse-toi.
T'es même pas un frère.
Casse-toi, Mangan. Mais putain, mais pas sur le clavier, Mangan. Tu fais chier. Oh.
Un extrait de la série donc Sako et Mangan qui se déroule au Sénégal, mais vous aussi, Jean-Luc Herbulot, vous l'avez conçu, créé cette série dans un esprit vraiment panafricain.
Effectivement, quand j'arrive sur le projet était parce qu'il y avait déjà 3 ans de développement avant que j'arrive dessus sur les scénarios, etc. Quand je suis arrivé, effectivement, on a changé pas mal de choses et on a créé une nouvelle Bible. Et l'idée, donc j'ai aussi travaillé avec Alexandre Rideau, dont parlait Charlie tout à l'heure. Et l'idée qu'on a évoquée avec Alexandre, parce que c'est une série pour Canal+, on a beaucoup discuté avec Canal sur comment rendre la série à la fois très locale, ça veut dire à la fois très très ancrée dans les réalités sénégalaises, puisque c'est une série qui à la fois parle de meurtres, de cas juridiques, et en même temps, d'un autre côté, on est sur de la mythologie presque très sénégalaise, très Afrique de l'Ouest, avec de la magie. Des féticheurs, etc., etc. Enfin, on dit des marabouts en Afrique de l'Ouest. Donc, c'était essentiel pour nous de, à la fois être local, mais à la fois que cette série s'exporte. Et moi, ma mission secrète quand je suis arrivé, c'était aussi que la série parle au monde entier. Parce qu'au départ, les ambitions étaient beaucoup plus Afrique vers Afrique, et on a essayé d'élargir un peu le prisme et de penser Afrique vers monde. Voilà. Donc, ça a été un peu le combat sur cette série.
Est-ce que vous estimez qu'il y a, ou qu'il y avait, hein, peut-être maintenant qui commence à être parlé au passé, un manque de récits en Afrique qui commence à être justement comblé grâce à ces séries.
Non, oui, effectivement, on a un bestiaire, plus qu'un bestiaire, on a des histoires, des légendes, des mythologies comme sur tous les continents, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, on a les diffuseurs étaient manquants. On commence à arriver, on commence à avoir des diffuseurs, on commence à avoir des financiers, on commence à avoir des talents aussi, puisque c'est des talents qui créent, faut jamais l'oublier. Et on a aussi, je pense que tout va ensemble, hein. On est sur un continent où effectivement sur un continent émergent, comme on dit dans le reste du monde. Donc plus les choses émergent et plus on a des talents qui émergent et des auteurs qui émergent avec des histoires qui peut-être existaient déjà, mais en tout cas qui sont remis au goût du jour. Et comme disait Charlie, Charlie et Omar, on a une jeunesse qui a soif de, en tout cas j'ai l'impression, et c'est ce que j'ai ressenti particulièrement au Sénégal, une jeunesse qui a soif de se voir à l'écran, de voir ses réalités à l'écran, de voir ses histoires à l'écran, de se reconnaître aussi. Moi j'ai grandi au Congo-Brazzaville, j'ai eu une enfance où j'ai grandi majoritairement avec des contenus qui venaient de l'étranger, en particulier asiatiques ou américains. Donc je comprends très bien ça, et c'est aussi en ça que ça a été intéressant pour moi de travailler sur Sako et Mangan, avec cette motivation de se dire j'aimerais faire une série que j'aurais aimé regarder quand j'avais 8, 9, 10 ans, pour être inspiré. Donc, toutes ces histoires à raconter sont, en tout cas pour moi, enfant qui est né en Afrique et grandi en Afrique, pour moi, c'est une opportunité magique de combler un vide que j'ai eu quand j'étais beaucoup plus jeune, pour les nouvelles générations. Même si je suis pas très vieux non plus.
Vous, Charlie Belletto, vous n'êtes pas africain vous-même, mais vous apportez évidemment votre savoir-faire. Et on a un peu compris, mais vrai que vous développiez un peu, que vous avez fait travailler tout un pôle de scénaristes pour les histoires, les dialogues, notamment de Ouara.
Oui, tout à fait. Donc, évidemment, après avoir fait produit la série C'est la vie, j'avais ce projet de Ouara qui était né au Niger. Et comme le disait Jean-Luc, on se rend compte, et surtout peut-être au Sénégal aujourd'hui, parce qu'il y a ces énergies locales qui sont fortes, on sent bien qu'il y a une jeunesse qui a envie d'exprimer, qui a envie de raconter l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique contemporaine qu'on connaît nulle part ailleurs, sauf en Afrique. Et donc, ils ont besoin de dire qui ils sont. Donc, j'ai sélectionné un certain nombre d'auteurs venant de tous les pays francophones pour écrire, pour développer Ouara. Je pense que Sako et Mangan étaient aussi développés de la même façon avant l'arrivée de Jean-Luc sur le projet. Et donc, avec ces scénaristes venant de pays différents, on a pu raconter des histoires qui touchaient des peuples différents, mais qui vivent dans une région qui est le Sahel, qui est une région assez particulière et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des mouvements compliqués au niveau politique pour que ces pays réussissent à émerger de façon tranquille, on va dire.
Alors, Ouara, c'est une coproduction entre la France, notamment via l'AFD, l'Agence française de développement, le Niger et le Sénégal. Et dans Ouara, vous mettez aussi...
Juste, excusez-moi. Oui. En fait, l'AFD n'est pas une production. Hein, c'est un financement qui fait partie du financement général de la série, mm-hmm. mais il y a une coproduction française qui s'appelle Astarte et compagnie, qui fait partie du conglomérat des producteurs qui ont permis justement de monter le financement de cette série qui était assez complexe.
Et du coup, comment ça se passe dans ces cas-là, Charlie? Ça veut dire que l'AFD, qui donc on a bien compris n'est pas coproducteur, vous donne une sorte de cahier des charges?
Non, en fait, c'est l'AFD qui nous a choisis parce que on rentrait dans leur cahier des charges. En fait, au départ, on avait un projet avec Magadji qui était un projet qui mettait en avant les minorités, qui défendait la parole des jeunes, etc. C'était la première série politique en fait en Afrique. Vous avez vu en France la difficulté qu'il y a eu avant de pouvoir créer des séries politiques comme Baron Noir. Eh bien, en Afrique, ça n'avait pas été fait encore avant Ouara. Et donc, on avait cette complexité-là. Et quand j'ai parlé de ce projet avec Alexandre, il était très emballé par l'idée de raconter une histoire sur la gouvernance. Et à partir de là, il a su comment aller chercher et intéresser l'AFD dans le financement. Ça, c'est plus la partie africaine, on va dire. Et la partie française, en fait, cette production française était intéressée au projet dès que j'ai rencontré l'auteur nigérien. Et donc, on a réussi avec ces trois productions, hein, une production nigérienne, la production sénégalaise et la production française, on a réussi à lever des fonds aussi en France avec le CNC. Parce que on est panafricain, mais on est international. Donc, on a des auteurs, des techniciens qui sont venus en complément d'équipe et qui ont permis d'obtenir les points nécessaires pour avoir des fonds du CNC. Et puis on a eu aussi l'OIF, bien sûr, et c'est comme ça, avec des fonds privés qui nous ont permis de compléter le financement de la série. Mais au départ, c'était une série internationale, donc c'est normal qu'il y avait ce projet de réunir plusieurs producteurs d'horizons différents.
Alors dans cette série, vous mettez donc en scène le conflit de génération, ces vingtenaires qui refusent la corruption, mais aussi la résignation de leurs aînés, qui vont même les remettre en marche, comme Aïcha le fait avec Ouara. Et puis c'est une série qui parle du statut de la femme.
Tu vois rouge? Mais non, fais pas cette tête-là. Je sais que tu n'as pas de mise en liberté, pas plus hier qu'aujourd'hui. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'en ai marre de fuir ma vraie vie. J'ai pris des décisions. On m'accuse d'avoir commis un crime par passion, Moutari. Tu as déjà vu quelqu'un tué par passion? Je l'ai fait pour me défendre. Je suis revenue à Tanasanga pour régler mes comptes du passé. Et en faire profiter toutes les femmes de ce pays, pour que justice leur soit rendue. Pour la nouvelle génération, pour ma fille.
Ta fille, quelle fille? Aïcha, elle refuse de croire que tu sois sa mère.
Tu dis ça parce que depuis que tu es mon avocat, elle sèche tes cours.
Qui t'a dit ça?
Ma boule de cristal.
Donne-moi une preuve que tu es bien la mère de Aïcha.
Ah, parce que tu en doutes? Les flics ont mis moins de temps que toi pour m'identifier. Ils m'appellent tous Yasmine Diallo. Moutari, c'est toi que je veux pour m'accompagner dans ce combat. On se doit bien ça tous les deux, non?
Voilà un extrait du deuxième épisode de Ouara, dans lequel l'une des protagonistes, hein, c'est Sugar, une professeure de pharmacologie, est arrêtée pour un meurtre commis plus de 20 ans auparavant. Elle a tué son mari, enfin c'était lors d'un mariage imposé, donc c'était un viol, on va dire, un viol entre guillemets légal, hein, si on puisse s'exprimer ainsi. C'est un sujet qui parle aux téléspectatrices, aux mardiaques. On dit que l'audience des séries en Afrique est majoritairement féminine.
Alors, est-ce que ça parle aux téléspectatrices? J'espère, je ne vais pas parler en leur nom. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que nous, en termes de... Quand on a préparé ces scènes-là, on a passé beaucoup de temps sur les lectures et sur la compréhension de l'histoire de chaque personnage. C'était hyper intéressant et instruisant pour nous de pouvoir travailler avec Mademoiselle Jai, avec François-Sébastien Boulian, qui jouent les rôles respectivement de Mariam Sugar et Aïcha Diallo. Mm. Parce que ce sont des personnages féminins forts, l'une jeune, l'autre plus âgée. Et justement, dans les thématiques, moi j'avais à cœur, en dirigeant ces personnages, qu'on ait bien mis à plat les enjeux, tous les tenants et les aboutissants, parce qu'effectivement on parle de mariage forcé, on parle de la position de la femme dans cette société, on parle de prendre part à la vie politique de la société. Et je trouve que ce qui a été très bien amené déjà par les scénaristes et ce qu'on a réussi nous à retranscrire à la mise en scène, en tout cas je l'espère, c'est que leur prise de pouvoir elle est inscrite et elle est actée, et on n'est pas en train de la mettre en avant comme quelque chose qu'il faut encore valider. D'où encore, pour moi, l'importance d'avoir placé ça en 2024 et dans une ville imaginaire à travers laquelle tout le monde pourra s'identifier. C'est que ces personnages féminins, la façon dont on les a traités, Aïcha, elle s'impose d'elle-même. Mm. C'est son caractère. Elle a un avenir politique qui est tracé parce qu'elle a une dynamique active. Sugar, elle a décidé de revenir et de mettre en avant son expérience par rapport à ce viol qu'elle a vécu et d'en faire profiter la jeunesse de Talasanga. C'est des décisions fortes qui vont être portées tout au long de l'histoire par nos personnages et qui vont avoir une résonance et à travers les choix politiques et à travers les choix personnels qui, en fait, tout au long de la série, le politique, le personnel, s'entremêlent pour créer une dynamique de fiction assez forte. Donc là, je parle de fiction, mais en même temps, je pense très inspirante pour des jeunes femmes qui sont déjà les spectatrices de notre série.
Oui, Aïcha, elle pourrait tout à fait devenir une héroïne pour des générations de jeunes sénégalaises ou africaines en général. Comment ça se passait du coup sur le plateau? Est-ce que vos actrices, elles discutaient? Elles avaient des choses à dire sur leurs personnages, par exemple le personnage de Aïcha ou de la mère Sugar, voire même de la grand-mère, hein, qui est un personnage important aussi?
Complètement. C'est pour ça que je vous parlais des séances de lecture qui ont été... bénéfique pour elle et pour nous, qu'on arrive à placer un curseur et un référentiel commun. Il y a eu des choses qu'il a fallu mettre à niveau. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que culturellement, une jeune fille ne va pas remettre en place sa grand-mère. Il y a des choses que va faire le personnage de Aïcha dans la série. Et on a dû, nous, débrider quelque chose, ce respect de la hiérarchie qui est omniprésent chez nous, qui est une valeur très importante, qu'on a dû tordre un peu pour ce personnage de Aïcha, qui, elle, frontalement, va remettre en place sa grand-mère, va remettre en place son professeur de droit, Moutar Ibora, qu'elle va insulter de lâche, et à juste titre, d'ailleurs. Mais pour le coup, il a fallu qu'on bouscule un peu pour que le personnage soit incarné. Et du coup, effectivement, ça demande beaucoup de discussions, d'échanges entre les comédiens, d'échanges avec la mise en scène, entre la mise en scène et les comédiens, pour qu'à un moment donné, tout soit conscientisé, intégré, et que dans le jeu, les tenants et les aboutissants, les enjeux de chacun, tout ce que chacun a à perdre et à gagner, soit assez concret pour que le naturel de des codes et de la hiérarchie qui sont déjà inscrits dans chacun de nos acteurs passe au second plan et que tout leur être soit mis au service du personnage. Et ça a été très important et ça a été assez bien retranscrit par nos personnages, par nos acteurs.
Vous voulez dire que Aïcha, elle est un peu plus culottée que la moyenne. Mais Aïcha, du coup, est-ce que vous avez l'impression que, justement, je parle des comédiennes, mais aussi des comédiens, est-ce que ça les a aidés à réfléchir eux-mêmes?
Je pense que énormément, mais je pense que Charlie le confirmera, parce que je pense qu'ils ont été très demandeurs. Nous, on a eu la chance d'avoir Charlie, donc, qui est le showrunner, avec nous sur toute la préparation. Donc, il y a énormément fait la passerelle entre ce qui a été défini à l'écriture et ce que nous, on a retranscrit à la mise en scène. Et du coup, on avait des comédiens très demandeurs, justement, d'informations complémentaires, qui passaient du temps à appeler Charlie, à m'appeler moi, à valider des choix, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est pas juste pour eux, en tout cas, je parle de France Nancy, je parle de Issaka Sawadogo, de Souleymane Djoulo, tous ces personnages-là. Ils ont compris l'idée qu'il y avait derrière la série Ouara et la dynamique qu'on souhaitait insuffler, et que ça dépassait seulement une petite série qu'on voulait diffuser à l'antenne. Donc il y avait un message fort. Donc quand on se sent une responsabilité comme celle-ci, en tant qu'acteur, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont eu à cœur d'être juste dans le propos. Donc il y a une volonté de proposition, ce qui pour nous est un régal en tant que réalisateur, d'avoir des acteurs qui proposent, qui intègrent les personnages et qui viennent, ok, là, si j'ai bien compris, elle est dans cette dynamique, est-ce que ça te dit que j'arrive un peu comme ci, un peu comme ça, et puis on a juste d'être derrière. Et l'idée, c'est de nous de montrer un maximum, sans forcément dire que les personnages transpirent une réalité. Et ça, ça passe par, oui, par un engagement des comédiens qui a été très très fort sur la série, et qui, moi, je parle pour moi, je pense pour Toumani Sansangaré aussi, nous a procuré beaucoup de plaisir dans la collaboration, de voir des acteurs autant impliqués.
Charlie, Meleto, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Bah, évidemment, tout ce que raconte Oumar, je l'ai partagé, et c'est des moments extrêmement forts. J'ai vu déjà quand on sort de plus d'un an d'écriture et que on fait ses lectures, on commence à voir la série se projeter, se matérialiser. On voit les personnages s'incarner.
Il y a beaucoup de personnages féminins forts en fait dans Ouara. On parlait d'Aïcha, on parlait de sa mère, mais oui. Il y a aussi un personnage journaliste, un personnage humoriste. Oui. Il y a des personnages de premier plan.
Oui, c'était vraiment un engagement de la part des auteurs d'avoir une vraie visibilité sur les personnages féminins et de les voir engagés et ne pas avoir à justifier de leur engagement, d'être dans des places où elles étaient déjà en train d'exprimer une nouvelle idée de la femme africaine. Donc ça, c'était effectivement vraiment une demande des auteurs. Et pour autant, les hommes aussi derrière sont intéressants parce qu'ils sont dans des perpétuelles remises en cause, que ce soit le personnage de Moutari, mais aussi le personnage du recteur, qui est Gonka, et qui ont tous quand même des destins assez ciblés pour qu'on puisse en faire des héros, hein, ça c'est sûr. Et c'est vrai que les acteurs, quand ils ont lu le texte, ils étaient assez impressionnés par justement... cette qualité de propos qui venait de différents pays, parce que les acteurs aussi, ils étaient panafricains, Issaka et Burkinabé, Maïmouna Ndiaye qui joue Sugar et guinéenne, hein, et France Nancy ivoirienne. Donc c'est des cultures un peu différentes, et donc du coup chacun avait sa lecture du texte. Et avait besoin de comprendre ce que l'autre interprétait du texte et comment se projeter dans l'histoire. Et le travail que Toumani Sangaré et Oumar Diack ont fait est formidable parce qu'ils ont su capter tout ça et donner du sens à la trajectoire de ces personnages. On a toujours envie, quand un scénario est écrit, que le passage au film transcende un peu toute cette écriture. Et ça a été vraiment le cas. Et la saison 1, actuellement, de 8 épisodes, effectivement, sur plein de thématiques, engager les personnages dans leur évolution, en fonction des choix qu'ils faisaient, etc. Et que nous, on sait un petit peu comment ces personnages vont changer avec la deuxième saison. Et donc, on ne pouvait pas tout évoquer en même temps. Vous posiez tout à l'heure la question sur la religion, par exemple. Effectivement, c'est une ligne narrative qui va évoluer en deuxième saison.
Une pause musicale, une nouveauté dans tous les cinémas du monde, le rappeur sénégalais Canabas. Haru chimandara lulu la de bañalo malene kibu bafe dama tubu dale boko papa ndax te kibu bafe la bafe te di tag ngare wati and ak mom ndax te bu bafe la bafe la jackpot nga lolé ñetti set bi may jodu bobu legi yo rek la don set mancha lu mi dundu dana sok dama sik me dama lu ne yo rek la don set baby go bu bafe bi nga na mo talking bëgg na la def sama wife sama trophy of a chauffeur, yeah, of a trophy. I'm not a man, cause I don't know what I'm saying. But I'm not a dog, if you my thing, my thing. You're all my fist, no, you barking, barking. The man's got all my ball, my fe, my fe. Who bach a bach, be lush, a basket, my fe. Y'all will let chat to you. Man, I give a big paradise. Man, I read that money, do. Man, I give a kill up a nice. Yeah, I've been the title, me jacking, no, do man, I did it.
peine. Tanka mbotol pour faire ta de gaine. Que gane ay wajura mok nye lenni du nyu bene. Haru chi mandara lulu la te banyan lo malene. Ki bu barbe la. Dame tu bu gale mwaka papa mdakte ki bu barbe la. Bu barbe la. Te gita gare wajte andak mom dakte bu barbe la. Bu barbe la. Sama sanyon mouji ak mom bage lam di ma gungi maida. Soufi nekul du mane kalep ne teka khamu nou may mana dunde samo.
Le rappeur Canabas sur RFI. D'ailleurs, c'est lui aussi qu'on entendait dans l'extrait tout à l'heure de Sako et Mangan, Jean-Luc Herbulot. Alors, parlons un peu de l'audience des séries africaines, parce que longtemps, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais lu, j'imagine que c'est plus vraiment le cas. On disait que c'était les séries romantiques qui avaient la cote parce que le public était majoritairement féminin, mais vous avez prouver, Jean-Luc Herbulot, qu'on pouvait justement proposer d'autres genres. Sako et Mangan, c'est vraiment une série policière matinée de fantastique.
C'est ça. Bon, c'était là-dessus, j'ai rien inventé parce que c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, j'arrive après 2 ans de développement. Effectivement, j'ai oublié de dire qu'il y avait des auteurs. Quand vous m'avez posé la question sur le côté panafricain, on avait des auteurs qui venaient d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, un Olivier Messa qui vient du Gabon ou un Augustin Gomme qui vient du Sénégal, par exemple. Donc, on avait plein de sensibilités différentes. Et on s'est servi de tout ça pour je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le côté international de la série, pour élargir l'audience. Et encore une fois, moi, mon pari personnel était de, qui a toujours été un peu mon pari, parce que j'ai travaillé d'abord aux États-Unis avant de travailler en France et avant de travailler en Afrique. Donc mon rêve a toujours été de connecter une audience anglo-saxonne avec l'Afrique francophone. Donc effectivement, ça a été les discussions avec Canal+, avec le producteur Alexandre Rideau, sur comment on peut américaniser tout ça, si je peux dire ça dans ce sens-là, ou en tout cas l'anglo-saxoniser. Et on était assez fiers, puisque effectivement, il n'y a pas longtemps, la série a été achetée en Angleterre, en Australie. Je crois qu'il y a des bruits de couloir qui vont dire que c'est en train d'être vendu en Amérique du Sud. Donc la série voyage. Et c'était un peu le but, c'était de sortir d'Afrique et de raconter nos histoires à travers le monde, et pas seulement en Afrique, intra-Afrique. Donc c'était le pari, et j'ai l'impression que c'est bien parti pour être gagné. Voilà.
Jean-Luc Herbulot, comme on abordait effectivement dans Sako et Mangan, vous abordez le sacré, mais via des pratiques aussi spirituelles très spécifiques, très particulières. Ouais. C'est un sujet sensible, ça?
Alors nous, sur Sako et Mangan, on s'était volontairement pas mis de hier. Ça veut dire que pour ceux qui regarderont la série, vous verrez qu'il y a des épisodes qui peuvent aller assez loin. Ça peut être sur la sexualité, ça peut être sur la religion, ça peut être sur la mystique, le mysticisme, ça peut être sur la politique aussi quelquefois. Même si c'était un sujet qui nous intéressait pas tellement pour Sako et Mangan, mais il y a quand même des petits pics ici et là, à gauche à droite. Ce qui est intéressant au Sénégal, en plus, c'est que le Sénégal, en tout cas pour tous les pays d'Afrique que j'ai fait, c'est l'un des seuls pays où j'ai vu les gens de différentes religions se marier aussi bien. Ça veut dire que dans une même famille, vous pouvez avoir des musulmans, des chrétiens, etc., etc. Donc c'est aussi, je pense, ce qui fait la force du pays, c'est cette espèce de stabilité. Je ne sais pas si je pourrais dire grâce à la religion, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce métissage des religions y contribue. Et c'est quelque chose qui nous a aidé forcément sur l'approche un peu plus spirituelle dans Sako et Mangan. Mais c'est vrai que la série, la difficulté, en tout cas le combat pour nous, pour moi en tant que showrunner et pour les scénaristes, ça a été de faire basculer lentement la série vers ce qu'on a d'un procédural. Donc ce qu'on appelle un procédural, c'est une série à enquête, vers une série qui devient qu'est-ce que je pourrais donner comme équivalent européen pour ça,
un X-Files,
ou
ouais.
Voilà, quelque chose de plus voilà, Fringe ou X-Files, ou quelque chose de plus bizarre, mystique, jusqu'à arriver à quelque chose. Bon, je vais pas spoiler la fin de la première saison, mais en tout cas on arrive sur quelque chose de qu'on n'avait pas vu au début, mais du tout. Donc c'était un peu le pari qu'on s'est donné avec Alexandre et avec la chaîne, c'était de perdre un peu le spectateur à un moment pour l'amener vers quelque chose de complètement différent, et de renouer avec et c'est là où Alexandre a été courageux, et c'est là où ce projet m'a plu, c'est de renouer avec quelque chose qui ne se fait pas beaucoup au final en Afrique francophone, qui est le film de genre. Et c'est pour ça que je décide, moi, après Sakho et Mangan, de créer ma société pour mettre en scène ce genre d'histoire ou ce genre de film. Ça veut dire de traiter ce qu'on appelle film de genre, en tout cas dans le monde occidental, qui sont les films d'horreur, les films fantastiques, etc., etc. Donc les films très marqués visuellement et sensoriellement. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez ce cinéma en Afrique. Et c'est un cinéma qui se vend très bien dans le monde. En tout cas, une forme de cinéma, une forme de récit qui se vend très bien dans le monde. Donc en ça, Sakho et Mangan, ça a été très intéressant. Et c'est intéressant de voir les retombées sur ce qui se passe là. Et j'ai l'impression que Ouara est un peu dans ce sérail-là, parce que ça reste quand même du genre aussi, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'on est en train de rentrer en Afrique, dans le cinéma africain et dans les séries africaines, dans une nouvelle phase qui va commencer à explorer des genres différents, un peu comme ce qui se passe avec Maîtresse d'un homme marié, où là pour le coup on commence à arriver sur ce qu'on appelle trivialement, nous, dans la culture noire, le black love, etc., où on commence à arriver sur des qu'est-ce que c'est une histoire d'amour africaine, qu'est-ce que c'est une histoire politique, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Voilà.
Merci Jean-Luc Herbulot. Donc on pourra voir bientôt la saison 2 de Sakho et Mangan?
Je l'espère, je ne sais pas. On n'a toujours pas d'infos par rapport à ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu, je vais rentrer un peu plus dans les choses un peu plus politiques, mais la série est une série de Lagardère, et je crois que Lagardère a été racheté depuis, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a pas mal de mouvements dans ce côté-là. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est vrai qu'on espérait tous avoir une saison 2, surtout vu la fin de la saison 1. C'est très marrant parce qu'on recommence à recevoir des messages en anglais d'anglo-saxons qui nous dit mais c'est quoi la saison 2? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est?
Voilà, réclame. Bon, écoutez.
Donc c'est très marrant au final d'avoir une série africaine et d'avoir des spectateurs du monde entier qui viennent vous demander ce genre de choses. Donc on est bien dans un changement, effectivement.
Donc on attend, merci Charlie Belletto et Omar Diak. La série Ouara est en cours de diffusion sur TV5 Monde et Afrique et disponible sur la plateforme tv5mondeplus.com. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard.
Et un grand merci aussi à Fabien Munieret. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour souffler un peu en avance les 90 bougies d'un immense réalisateur, toujours bien vivant, Jean-Luc Godard. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin. Elisabeth Le Quéré. Vous avez raté la séance? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.